radio.
Okapi, Okapi.
Okapi Service. Jody Daniel Kachama.
Okapi.
Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans Okapi Service, le magazine de la vie au quotidien. C'est un plaisir de vous retrouver encore aujourd'hui pour vous servir. Merci d'être nombreux et à l'écoute de ce magazine. Nous allons parler droit aujourd'hui. Quelles sont les voies de recours contre les décisions pénales? Pour en savoir plus, nous recevons aujourd'hui Maître Jacques Anguibuira, avocat au barreau du Nord Kivu. Maître Jacques, bonjour. Bien, on va les recevoir dans quelques instants. Avec lui, nous allons échanger sur les voies des recours contre les décisions pénales en République démocratique du Congo. Pour participer à l'émission, le standard est déjà ouvert. Composez les 081 82 82 827. Écrivez-nous également à service@radiookapi.net. Dans la deuxième partie de l'émission, nous allons parler de la dégradation de la qualité des services des sociétés de téléphonie mobile. Il devient difficile, de plus en plus difficile de passer certains appels. Les téléphones nous jouent des mauvais tours. Et puis l'internet rame. Il y a des soucis par-ci par-là. Qu'est-ce qu'il faut faire? Comment revendiquer les droits des consommateurs? Joël Lamik Kalaboudi, défenseur des droits des consommateurs au sein du mouvement national des consommateurs lésés, sera avec nous dans la deuxième partie de cette émission. Pour participer à ce magazine de la vie au quotidien, le standard est déjà ouvert. Composez les 081 82 82 827. Nous allons vous rappeler pour participer à cette émission. Écrivez-nous à service@radiookapi.net et laissez un commentaire sur la page Facebook de l'émission Okapi Service. Debs Vita assure la mise en onde. Naomi Moutokier, la coordination et la réalisation au micro. Jody Daniel Kachama, bienvenue à tous.
Parce que les problèmes font partie de notre vie au quotidien et que les solutions, ce n'est pas ce qui manque, Okapi Service vous met au centre de vos préoccupations et fait le relais avec les autorités compétentes pour trouver une solution. Okapi Service, nous sommes à votre service.
Bien, encore une fois, bienvenue dans cette émission Okapi Service. En droit congolais, il existe plusieurs voies de recours qui peuvent être utilisées pour contester un arrêt rendu par les hautes juridictions. Cependant, pour l'ex-ministre de la Justice Constant Mutamba, les choses se compliquent. Il a été condamné le 2 septembre dernier à 3 ans de travaux forcés et 5 ans d'interdiction d'accès à toute fonction publique devant la Cour des cassations. Le jugement rendu est définitif, il ne peut pas faire appel à la suite de sa condamnation pour détournement de fonds publics dans le cadre des marchés publics. Voilà. Et pour certains juristes, la loi prévoit d'autres voies de recours dans des circonstances exceptionnelles. Quelles sont ces voies de recours? Eh bien, on en parle avec notre invité, Maître Jacques Anguibuira. Il est avocat au barreau du Nord Kivu. Maître Jacques, bonjour.
Bonjour, monsieur Jody Kachama. Je salue également tous les auditeurs de la radio Okapi.
Bienvenue dans cette émission, maître. Alors, nous parlons aujourd'hui des voies de recours contre les décisions pénales. C'est quoi une voie de recours?
Une voie de recours, c'est ce que le législateur prévoit. Comme vous, dans l'introduction de l'émission, comme vous le disiez, il y a un retour de ma part. Est-ce que ça va, c'est
vous? Oui, ça va, on vous capte 5 sur 5.
Ah, d'accord. contre l'arbitraire, pour permettre à toute personne de contester une décision judiciaire rendue. Le législateur a prévu le double degré.
Allô, maître Jacques? Allô? Allô? Je pense qu'il y a un souci, on a perdu notre invité. Et on va le relancer dans les minutes qui suivent. Maître Jacques Anguibuira est avocat au barreau du Nord Kivu. Avec lui, nous échangeons aujourd'hui sur les voies de recours pour contester, n'est-ce pas, une décision pénale. Des questions et préoccupations, appelez déjà au 081-82-82. 827. Merci à tous les internautes. Vous êtes nombreux à avoir réagi par rapport à cette question. Monsieur Vianney depuis Bukavu, au sud Kivu, nous a écrit, dit Mutamba est coupable et doit purger sa peine comme tout autre citoyen. Le fait pour lui d'avoir bougé cet argent qui n'appartient pas à l'État qui était destiné à construire, qui n'appartient pas à l'État pour raison de construire, selon lui, une prison, fait de lui un détourneur, quelles que soient les justifications. Et nous savons déjà auprès de qui il a eu la mission de déplacer cet argent pour se partager, bien que la source n'est pas officialisée, comme celui qui est derrière lui est fort que lui, il sera libéré de manière politique comme d'habitude, mais de manière légale, il n'y a plus d'autre voie de recours. Voilà, c'est ce que nous dit Maître Vianney depuis Bukavu. L'ingénieur Bernard Njoli depuis Kisangani nous dit c'est la toute première fois de voir que quelqu'un veut détourner de l'argent, mais il informe les autorités de ses projets. L'argent qui a été détourné est retourné au compte de l'État Frivao. Refuser d'autres voies de recours nous pousse à comprendre que l'acharnement était réel et c'est une décision politique et non judiciaire. Voilà autant de réactions. Il y en a plusieurs. Voilà, je viens de lire quelques-unes. On me fait signe que notre invité est là. Maître Jacques, vous êtes là?
Oui, je suis là. Je vous entends.
Très bien. Alors, la question était de savoir...
Que je disais que les voies de recours...
Oui.
Oui, disons, c'est le chemin que doit emprunter un condamné d'une décision judiciaire pénale pour voir le juge, généralement supérieur, à celui qui a rendu la décision, réformer la décision ou réexaminer les faits de nouveau et rendre une nouvelle décision. Ainsi donc,
oui. Allô? Allô? Bien, je pense, décidément, il y a des soucis avec la connexion aujourd'hui, la liaison téléphonique. Maître, vous êtes là? Voilà, je pense qu'on... On va tenter encore de joindre notre invité, Maître Jacques Anguibuira, qui est avocat au barreau du Nord Kivu. Avec lui, nous échangeons aujourd'hui sur les voies de recours pour contester un arrêt rendu par les hautes juridictions, le cas de l'ex du procès de l'ex-ministre de la Justice Constant Mutamba. Pour participer, composez les 081 82 82 827. Maître, décidément il y a des soucis au niveau de la liaison téléphonique, mais je pense que ça va aller. Vous avez la parole.
Ok, je disais ainsi que ces voies sont prévues par la loi de 1959, pour le décret du 6 août 1959, portant au code de procédure pénale. Il y a également la loi de 2013 sur la procédure devant la Cour de cassation. Le code judiciaire militaire également prévoit des voies de recours contre les décisions rendues par les juridictions militaires. Quelles sont ces voies de recours? Alors, la voie de recours, je commence par l'opposition. L'opposition est une voie de recours que peut former toute personne dont la décision judiciaire a été rendue à son absence. Le délai pour cette fin est de 10 jours pour faire opposition et la forme, il est de 10 jours lorsque la décision a été rendue, lorsque le prévenu a pris connaissance de la décision. Il est également à partir du moment où il a pris connaissance de la décision, il est également de 10 jours lorsque la décision lui a été signifiée. Et la position est encore recevable. L'opposition est encore recevable. Si vous pouvez établir que le prévenu, la personne qui a été condamnée, n'avait pas pris connaissance de l'existence de cette décision et il a pris connaissance et son opposition peut être reçue jusqu'avant l'expiration de la prescription de la peine. La deuxième voie de recours, il y a l'appel. L'appel, c'est une voie de recours. Donc, les deux voies de recours ici dont je parle, ce sont des voies de recours ordinaires. Mmh. Les voies de recours sont appelées ordinaires parce qu'ils suspendent l'exécution, leur délai. Et lorsqu'ils sont effectués, ils suspendent l'exécution de l'appel. On ne peut pas exécuter une peine lorsque ces deux voies de recours que je suis en train de citer, appel et opposition, sont formées. Ainsi, l'appel, à son tour, est formé. Le prévenu a le droit de former appel dans les 10 jours de la décision, à partir du moment où il a pris connaissance, lorsque si le jugement a été rendu à sa présence, et si le jugement n'a pas été rendu à sa présence, à partir du jour où il prendra connaissance de l'existence du jugement. Le ministère public également a le droit de former opposition. Il a le droit, le ministère public près de la juridiction qui a rendu la décision, il a le droit de former opposition aussi dans les 10 jours, mais le ministère public de la juridiction supérieure a la possibilité de faire appel, dans les 3 mois, qui suivent le prononcé du jugement. Ça, ce sont des voies de recours ordinaires. Prenons alors le voie de recours extraordinaire. Ils sont extraordinaires parce que leur exercice, le délai également, ne suspend pas l'exécution. Mais néanmoins, parmi ces voies de recours, il y a une voie de recours, la cassation. C'est par là que je vais commencer. La cassation, lorsqu'elle est effectuée, elle est suspensive de l'exécution de la décision. Alors, je disais, la cassation, elle est prévue par la loi numéro 13/010 du 19 février 2013 relative à la procédure devant la Cour de cassation. Elle est possible, pour faire la cassation, le délai est de 40 jours francs à partir du prononcé du jugement. Après avoir effectué la cassation, après avoir formé cette voie de recours appelée cassation, il y a un délai de 3 mois accordé à celui qui l'a formé pour introduire une requête confirmative de cette cassation. Et je précise bien ici, cette requête confirmative de la voie appelée cassation, elle est introduite par un avocat près la Cour de cassation. À part la cassation, il y a la prise à partie. La prise à partie, c'est également une voie de recours extraordinaire prévue également par la loi portant procédure devant la Cour de cassation. Il y a cette voie de recours est possible lorsqu'il y a eu dol dans le chef des magistrats qui ont rendu la décision ou pendant l'instruction du dossier, lorsqu'il y a concussion. Et lorsqu'également il y a dénis de justice, il y a dol, par exemple, lorsqu'il y a violation volontaire du droit pour aboutir à une conclusion erronée de la part des juges qui ont rendu la décision.
Oui.
C'est donc ce genre, les juges qui ont rendu la décision, ils s'embrouillent dans des raisonnements qui ne sont pas corrects pour donner avantage à une partie alors que cette partie n'avait pas ces avantages-là. Donc, un raisonnement qui n'est pas cohérent,
qui ne tient pas debout.
Pour aboutir à un avantage, effectivement, qui ne tient pas debout. D'apparence, celui qui n'a jamais appris le droit ou un amateur, il croira qu'il a raison. Le juge qui a rendu la décision ou qui a formé, ou le juge qui a instruit, il croira qu'il a raison, alors qu'il a tort, il s'est pourvoyé. Alors, parlant de la concussion,
parmi les causes de la prise à partie, c'est lorsque le magistrat perçoit des sommes d'argent. Des sommes d'argent là où ce n'est pas dit, ou là où c'est dit, il perçoit le surplus. Là, il y a concussion. Il y a également des délits de justice lorsque le magistrat ou le juge refuse de faire son travail. Et je précise ici que la loi a prévu que tous les magistrats des juridictions de l'ordre judiciaire peuvent être attaqués ou peuvent faire l'objet d'une prise à partie.
Bien, maître, on va accueillir les auditeurs. Nous parlons des voies de recours contre les décisions pénales. Christian Kakoulé nous appelle depuis Lubumbashi. Bonjour.
Bonjour, monsieur Joly. Je salue aussi tous les invités, mais aussi le confrère maître Jacques Sangui.
Bien, est-ce que vous pouvez parler un peu plus fort? Allez-y.
Oui, voilà, la question c'est de savoir par rapport aux voies de recours. Parce que si voie de recours sous-entend le double degré de juridiction, est-ce que au niveau de l'arrêt de la Cour de cassation, le fait que les décisions sont rendues en premier et dernier ressort, cela ne constitue pas une violation de droit à un procès équitable? C'est ça la première question.
Bien, est-ce que vous pouvez répondre à la question?
Oui, la question c'est de savoir le double degré de juridiction. C'est un principe sacro-saint que prévoit dans les voies de recours.
Oui.
Alors, la question veut savoir, lorsque on est en présence d'un arrêt d'une cour, d'une haute juridiction, qui est rendu à premier et dernier ressort, est-ce que cela ne constitue pas une violation d'un droit à un procès équitable?
D'accord. Deuxième question.
La deuxième question, c'est par rapport à la cause exécutoire. Est-ce qu'en matière pénale, les jugements peuvent être rendus avec une forme exécutoire, notamment nonobstant le voie de recours?
Bien, merci d'avoir appelé Christian de Lubumbashi. Chrysostome Lebekwa, bonjour.
Monsieur Jordi.
Bien, Chrysostome, on vous écoute. Quelle est votre préoccupation?
Oui, monsieur Jordi, l'affaire Samoutamba est juridiquement close, mais loin d'être terminée. Pourquoi? Parce qu'à droit, une condamnation ne s'arrête pas seulement au prononcé de la peine. Une condamnation laisse des traces, notamment au casier judiciaire. Et ces casiers, pour un homme politique comme Samoutamba, étaient lourds partout. Les casiers judiciaires constituent un obstacle majeur pour toute prétention électorale ou responsabilité publique. Alors, Costa Moutamba a-t-il encore des armes juridiques? Oui. À droit congolais, il existe deux grandes catégories de recours, comme l'invité l'a bien expliqué. Mais ce qui intéresse, c'est la révision. La révision n'est pas une simple contestation d'un jugement. C'est un mécanisme très particulier qui ne souvient que lorsque apparaissent des faits nouveaux ou des éléments qui remettent sérieusement en cause de la condamnation initiale. Cela veut dire que Moutamba, pour espérer effacer sa condamnation, devra apporter quelque chose de nouveau, quelque chose de nouveau, s'il vous plaît, qui n'était pas connu au moment du procès et qui peut changer l'appréciation du dossier. L'histoire de notre droit nous donne un précédent célèbre, l'affaire Simon Kimbangu. Simon Kimbangu était condamné par la haute cour dans les années 1920, mais il a été réhabilité bien après sa mort. Les avocats ont introduit un recours à révision à la justice, et cette fois-ci, la justice l'avait reconnu comme innocent, et aujourd'hui, juridiquement, Simon Kimbangu est réputé n'avoir jamais été condamné. C'est cette jurisprudence que Moutamba pourrait invoquer. Il va sans doute tenter de prouver l'existence d'erreurs ou de nouveaux faits pour que la justice accepte de réouvrir le dossier. Si sa démarche réussit, il pourrait voir son casier judiciaire effacé et donc son avenir politique relancé. Mais attention, la révision n'est pas une voie facile. Elle est exceptionnelle, rare et exigeante. Peu de dossiers passent ce type et tout. Boutamba devra donc démontrer une guerre juridique et politique qui convainc. À l'attentat, sa condamnation reste valable et son casier judiciaire demain chargé.
Bien, merci. Merci beaucoup, Chrysostome Lebakoa. Maître Jacques Angui, vous avez la parole.
Oui, merci beaucoup. Je remercie nos deux auditeurs. Je commence par le premier auditeur qui a posé la question du droit équitable, du droit à un procès équitable. Et effectivement, ça pose un problème et dans des débats de réforme, nombreux sont ceux qui ont soutenu que bien effectivement, même si les bénéficiaires des privilèges des juridictions se voient être contrés à être jugés par la Cour de cassation au premier et dernier ressort, on aurait pu, dans des réformes, on aurait pu organiser qu'il y ait peut-être une chambre de premier degré et une chambre de second degré au niveau de la Cour de cassation, pour permettre qu'il y ait au moins une voie de recours. Mais au stade actuel, la loi n'a pas prévu. La loi a tout juste prévu que les personnes visées à l'article 153, c'est le cas du ministre Constant Moutamba, les personnes visées à l'article 153 seront jugées en premier et dernier ressort par la Cour de cassation. Et contre cette décision, ils n'ont pas prévu la cassation contre cette décision et nul appel. Alors, ça viole le droit à un procès équitable parce que l'arbitraire peut être commis. Moi, je suis d'avis et je suis d'accord dans ce sens-là. Et la question suivante étant celle de savoir est-ce que on peut rendre une décision nonobstant tout recours en procédure pénale. Non, ce n'est pas prévu. Ce qui est prévu, les décisions rendues exécutoires nonobstant tout recours, ce sont des décisions rendu en matière civile, déguerpissement, exécution provisoire, nonobstant tout recours, conformément à l'article 21 du décret du 7 mars 1960, portant compte de procédure civile.
Alors, maître Jacques.
Cela n'existe pas.
Maître Jacques. Oui, oui, quand
si
on
vous
dit.
Vous permettez que je touche un peu sur la question, oui.
Oui, allez-y alors. Allez-y et puis.
Allez-y.
Non, j'allais poser la question.
Sur la question de la révision.
Oui, de la révision, allez-y.
Sur la question de la révision qui vient, oui. Et l'auditeur qui vient de soulever la question, c'est bien bon. Mais ici, notez que la révision, en tant que voie de recours extraordinaire, qui consiste à corriger les erreurs judiciaires, c'est une voie de recours possible pour les infractions, pour des condamnations à la peine de servitude pénale principale de plus de 2 mois. Donc, dans le cas d'espèce, comme vous avez cité le dossier de l'ex-ministre de la Justice, M. Constant Moutamba, lui n'avait pas été condamné à la peine de servitude pénale principale. Il a été condamné à la peine de travaux forcés. Du coup, lui, il est exclu de cette voie de recours dite révision. Donc là, je réponds directement à la question de notre auditeur. Je ne sais pas, j'ai eu des difficultés à capter ce qu'il disait par rapport à Simon Kimbangu. Mais au moins, j'ai essayé de répondre dans ce sens-là. Ouais.
Bon, il dit qu'à l'époque, Simon Kimbangu a été condamné, mais plus tard, la décision a été changée. On a dû revoir cela, et puis la condamnation a été ôtée.
Mais effectivement, c'est ce que j'ai dit. Si je relis cela à la situation à la condamnation de l'ex-ministre, M. Constant Moutamba, c'est différent. Parce que ici, pour lui, la révision est ouverte lorsque le prévenu a été condamné à la peine de servitude pénale. Disons la prison, comme on a l'habitude de le dire.
Oui.
Il a été condamné à la prison, mais la différence ici, c'est que Moutamba n'a pas été condamné à la prison. Là aussi, ça va poser une autre question, peut-être on pourra en débattre après, sur l'exécution de cette peine. Il n'a pas été condamné à la prison, il a été condamné
à la peine des travaux forcés, qui est différente de la peine de servitude pénale. Or, la révision est ouverte, est possible seulement pour celui qui a été condamné à la peine de servitude pénale principale.
C'est-à-dire celui qui est condamné
et
à faire la prison.
Il est carrément exclu. Oui.
Alors, maître, est-ce que vous pouvez nous expliquer quand et on parle de travaux, des travaux forcés, ça veut dire qu'est-ce qui va faire exactement comme travaux?
Travaux d'intérêt général, des travaux d'intérêt général. Et ça pose également aussi problème parce que jusque-là, la loi avait réservé au président de la République la possibilité de prendre une ordonnance pouvant déterminer de quelle manière ces travaux seront organisés, de quelle manière cette peine sera exécutée. Mais jusque-là, jusqu'aujourd'hui, depuis 1959, jusqu'aujourd'hui, désolé, cette ordonnance n'a jamais été prise.
Parce que bien, beaucoup de gens se posent la question de savoir, travaux forcés, c'est quoi? Est-ce qu'il va aller faire les champs? Est-ce qu'il va participer à la salubrité publique? De quoi s'agit-il concrètement?
Les travaux forcés auxquels il peut être condamné, c'est pas nécessairement des travaux forcés, genre salubrité publique, aller balayer les rues et tout. Il peut travailler dans l'administration, mais sans aucune rémunération, pendant un délai déterminé. Et il peut travailler donc à tous les niveaux. Mais les modalités, c'est ce que je disais, les modalités d'exécution de cette peine n'ont jamais été fixées. Il faut une ordonnance que le président de la République doit rendre pour déterminer mode d'exécution, quel type de travaux et tout le reste.
Bien, on va accueillir Platini Mbombo depuis Mbandaka et Blaise Saïdi de Kisangani. Platini, bonjour.
Je dis bonjour, je salue l'invité.
Quelle est votre question?
Voilà, merci beaucoup Jody pour me voir sur ce débat. La thématique, vraiment, c'est cette thématique qui est très intéressante, où tous les Congolais attendent ça. Je sais que nous tous, on a bien suivi les procès de Constance, ex-ministre de la Justice, Gadelso Constant Mutamba, comme il a été passé du début jusqu'à la fin. Mais ce qui nous fait, je pose mes deux petites questions, ce qui nous fait mal, là, que la procédure n'a pas vraiment été respectée. Bien que je dis ça, je ne suis pas juriste à la matière. Mais c'est qu'on a procédé jusqu'à condamnation. Pour moi, à mon avis, la procédure n'a pas été vraiment respectée. Et si je peux aller directement poser ma petite question au niveau de l'invité, je sais qu'il est spécialiste à la matière. Je sais qu'au Congo, nous avons connu et assisté avec beaucoup de cas de détournement de données publiques à travers la RDC. Mais la procédure que Mutamba a subie, ce n'est pas le cas comme les autres. Et aujourd'hui, Mutamba, on a eu vite jusqu'à aller directement au niveau de la condamnation et 5 cas de nullité qui sont dans les travaux forcés. Là, vraiment, ça nous fait très mal. Et aussi, nous, les jeunes Congolais, on ne sait pas quoi, comment on peut le faire. Alors, la question que moi, je peux poser à l'invité, bien que l'invité. Il peut aller au niveau du chat, tout ce qui. Oui, bien sûr, mais il peut travailler dans le public, ou soit au niveau de la présidence, ou soit au niveau des cabinets de l'Assemblée nationale, etc. Tout ça. Mais il ne sera jamais payé comme rémunération. Mais le 5 ans de l'éligibilité, parce que selon le procès de la Cour des cassation, il est éligible, il ne peut pas exercer dans les fonctions publiques de l'État. Mais si les VTP nous donnaient la différence de l'éligibilité et les travaux forcés, c'est quoi? Et aussi sur le plan de la recours, souvent on dit le verdict d'un coup de cassation est inattaquable. Il n'y a aucun encore judiciaire qui peut attaquer le verdict de la Cour de cassation. Maintenant, si le juriste, les avocats de Constant Mutamba, veut maintenant faire la recours, ça va adresser maintenant dans quelle juridiction? Voilà un peu ce que je voudrais avoir appelé que c'est mort tout de ça.
Bien, merci. Nous parlons des voies de recours contre les décisions pénales en République démocratique du Congo. Nous avons en ligne Blaise Saïdi depuis Kisangani. Blaise, bonjour et quelle est votre préoccupation?
Oui, bonjour cher Jody, bonjour à l'invité ainsi qu'auditrice et auditeur de la Radio Capi. Étant donné que la thématique elle est très intéressante où les Congolais sont toujours à l'écoute de cette thématique. Donc, cher Jody, en République démocratique du Congo, lorsqu'une condamnation est prononcée par la Cour de cassation, elle a la force des choses jugées et ne peut pas faire l'objet d'un appel classique, car cette juridiction est au sommet de l'ordre juridique. Néanmoins, il existe des recours extraordinaires, tels que la révision. Et ici, la révision, il y a possible si les faits nouveaux apparaissent. Par exemple, les faux témoignages, les documents, ainsi de suite. Il y a également la Cour constitutionnelle lorsqu'il y a violation des droits de l'homme. Et il y a la grâce présidentielle. Donc ici, si nous voyons à ce qui concerne la durée, concernant la révision, il n'y a pas une durée considérable. Il y a la Cour constitutionnelle les 15 jours. Bon, je dois aller tout juste à des questions, cher Jody.
Oui.
La première question, la saisine de la Cour constitutionnelle suspend l'exécution de la décision de la Cour de cassation. Ça, c'est la première question. La deuxième question, si un ancien ministre est condamné par la Cour de cassation pour corruption, quel recours peut-il exercer? La troisième question, la condamnation par la Cour de cassation empêche-t-elle toute contestation? Et pour citer, pourquoi la Cour de cassation est-elle considérée comme une juridiction de dernier ressort en République démocratique du Congo? Je me limite à ces questions pour que l'invité puisse quand même nous éclairer, cher Jody. Merci.
Bien, merci. Quelles sont les voies de recours contre les décisions pénales en République démocratique du Congo? Maître Jacques Anguille, vous avez la parole.
Oui, je prends d'abord la dernière question. Il dit pourquoi la Cour de cassation, monsieur Blaise Saïdi. Il pose la question pourquoi la Cour de cassation est considérée comme la plus haute juridiction, mais c'est par la volonté de la loi. Parce que même dans l'exposé des motifs de la loi numéro 13/11-2 portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l'ordre judiciaire, le législateur a déjà prévu que toutes les juridictions de l'ordre judiciaire, notamment le tribunal de paix, au bas de l'échelle, le tribunal de grande instance, la cour d'appel, sont coiffés. Donc au-dessus de tout ça, c'est la cour de cassation qui est là. Donc c'est par la volonté de la loi qui est la cour de cassation et que la cour de cassation est supérieure à toutes les autres juridictions de l'ordre judiciaire. À côté, il y a les juridictions de l'ordre administratif et il y a la cour constitutionnelle, donc trois ordres. Deuxième question, lorsque le ministre a été condamné, donc un ministre député national, ici dans le cas d'espèce, on parle de l'ancien ministre de la justice, Constant Moutamba, lorsqu'il a été condamné, quelle voie de recours il peut exercer? Jusqu'à présent, aucune voie n'est ouvert, à part si je confonds très bien ce que j'ai dit, à part la prise à partie des juges qui ont rendu la décision, et cette possibilité et cette prise à partie ne peut être possible que s'ils découvrent l'un des trois éléments que j'ai cités auparavant, s'il y a idole dans le chef de ces juges, s'il y a eu également concussion ou s'il y a eu déni de justice.
Alors, vous pouvez bien expliquer ces trois éléments-là, dol, concussion et déni de justice. Qu'est-ce que cela veut dire pour permettre une bonne compréhension?
Je disais que le dol est une violation volontaire du droit par les magistrats ou par les juges pour aboutir à une conclusion erronée dans le but de donner ou de désavantager quelqu'un dans un procès.
Oui.
La concussion, je dis que c'est lorsque le magistrat perçoit ou le juge perçoit de l'argent là où ce n'est pas dit. Ou si c'est dit, il perçoit le surplus de ce qui est dit. Il peut s'agir des impôts, taxes et tout, c'est là il y a concussion. Le juge qui commet cela il peut être poursuivi en prise en partie. Il y a aussi déni de justice lorsque le juge refuse ou s'abstient de faire un devoir qui est à sa charge.
et le déni de justice est constaté lorsqu'il y a eu deux sommations de l'huissier. Et du coup, vous pouvez, le juge peut être pris à partie. Alors, même s'ils sont pris à partie, devant quelle juridiction on peut introduire ces recours? Devant la même juridiction, parce que la prise à partie, c'est une voie que seule la Cour de cassation connaît. La Cour de cassation est réglementée par la procédure devant la Cour de cassation. Donc la Cour de cassation connaît cette procédure et on peut introduire ces recours devant la Cour de cassation dans le délai de 12 mois, à dater du jour où on a découvert ces faits. Donc, je viens de révéler. Voilà la compréhension par rapport à ça ou mon apport par rapport à ça.
Bien.
Troisième élément. Oui, je ne sais pas. J'ai eu des difficultés à capter la troisième question. Je ne sais pas si vous pouvez rappeler.
Bon, et Blaise Saïdi.
Monsieur Blaise Saïdi de Kisangani.
Oui, il a rappelé à quel moment on peut contester les décisions de. Y a-t-il possibilité de contester la décision de la Cour de cassation? Je pense que vous venez de donner d'ailleurs tous les éléments par rapport à cela. La prise à partie, si on découvre que les juges, s'est retrouvé dans ce que vous venez de citer, la concussion, les dols, les dénis de justice à ce moment-là. Alors qui peut mener ces démarches? Ce sont les avocats de Constant Mutamba qui peuvent fouiller, avoir des informations et puis rebondir là-dessus.
C'est celui qui est victime de la décision en principe qui prend l'initiative de l'action et par des personnes bien mandatées. Encore que la procédure devant la Cour de cassation oblige le ministère d'un avocat. Il y a des procédures spéciales qui peuvent être menées par tous les avocats et il y a la procédure spéciale de la cassation qui ne peut être introduite qu'exclusivement par les avocats près de la Cour de cassation.
Bien, on va accueillir Thomas Ougeni depuis Kisangani et Elvis Londola de Kinshasa. Thomas, bonjour.
Bonjour, monsieur, aujourd'hui. Bonjour, Naomi.
On vous écoute, on vous entend difficilement. Je ne sais pas où est-ce que vous êtes en ce moment. Peut-être que vous pouvez vous déplacer un tout petit peu. Ça peut nous permettre de bien vous entendre, Thomas.
Allô, vous me suivez?
Oui, maintenant ça s'est quand même amélioré. Allez-y.
Merci beaucoup. Merci beaucoup de la parole nous accorder, monsieur, aujourd'hui. En tout cas, les voies de recours au pays, on en a. En tout cas, on en a le voie de recours qui permet à une personne qui n'est pas satisfaite du jugement ou de l'arrêt de contester ça. Et c'est tout à fait garanti même dans la Constitution, monsieur Jody. Mais les voies de recours, là, nous avons par exemple l'opposition. C'est lorsqu'une décision est coulée à la force de la chose jugée.
Oui, Thomas, l'invité en a parlé aussi, l'opposition, l'appel, tout ça, mais pour les cas de Constant Mutamba, la décision est définitive, donc il n'y a pas pas de voie de recours.
Exactement, je voulais en arriver là, monsieur Jody. C'est quelque chose qu'on peut, c'est pas pour Constant Mutamba, c'est tous les gens qui bénéficient de privilèges des juridictions où on voit la façon de les voies de recours mathématiquement ou pratiquement impossible, alors que la Constitution même de la RDC est très clair là-dessus. Si vous lisez l'article 21 de notre constitution, monsieur Jody, ça permet à une personne de former, à l'inéa premier, le droit de former un recours contre un jugement est garanti à tous. C'est vraiment légal. Alors que, dans la pratique, les gens qui bénéficient des privilèges de juridiction ne peuvent pas exercer ça. C'est le cas, par exemple, des ministres, le cas des présidents des assemblées provinciales, le cas des gouverneurs. Si ces gens-là, parce qu'ils sont justiciables devant la Cour de cassation, ça pose un sérieux problème. Et ça viole également ici l'article 21 de la Constitution qui permet à une personne, si vous n'êtes pas satisfait du jugement, de contester ça. Mais vous allez contester ça où? C'est un sérieux problème. Ce qui est tel quel que parle là, les législateurs, on doit voir comment réformer cet aspect des choses. Ou, je proposais même qu'on puisse créer des chambres là, au niveau même de la Cour de cassation, qui pourra statuer, parce que quelqu'un ne peut pas être tellement comme ça, on a condamné, qu'il soit d'accord, s'il n'est pas satisfait, il doit exercer ses voies de recours. Mais ça pose un sérieux problème parce que ça ne peut pas passer. À moins qu'il y ait des affaires politiques pour se mêler de là, mais mathématiquement ou pratiquement, c'est impossible que quelqu'un puisse faire exercer son droit de recours alors que c'est bel et bien garanti dans notre pays. Je pense que si c'est pour là, les législateurs, nous avons également nos parlementaires, ainsi que les certains juristes, ou tous ces gens doivent voir cet aspect des choses. Les droits de recours, c'est un droit garanti à tout le monde. C'est-à-dire, si vous êtes condamné et que vous n'êtes pas satisfait de cela, vous avez le droit d'exercer votre droit de recours. Mais quid des gens qui sont justiciables devant la Cour de cassation? C'est un sérieux problème, messieurs.
Bien. Alors, Gaston, Thomas, l'invité nous dit que la seule voie de recours qui s'offre, qui se présente actuellement, c'est tout simplement la prise à partie qui est une voie de recours qui permet de poursuivre les juges ou un membre de la juridiction en cas de dol, tromperie, concussion ou en cas de déni de justice. Voilà ce que l'invité a dit par rapport à ces dossiers. Quelles sont les voies de recours contre les décisions pénales? On en parle aujourd'hui dans Capi Service. Elvis Londola, vous êtes à Kinshasa, bonjour.
Bonjour aussi à notre invité.
Bien, qu'est-ce que vous avez à nous dire par rapport à ce thème du jour?
Ouais, vraiment, c'est une question qui a tellement bougé les toits ces derniers temps. Et dans les réseaux sociaux, nous sommes en train de voir peut-être, même en live, nous sommes en train de voir la réalité de ce qui s'est passé. Parce que même si ce procès a été retransmis, on le voyait. Même quand il réquisitionnait, même quand il refusait certains juges, ça signifiait qu'il y avait toujours une main noire derrière. Mais je voulais poser une question. D'abord, parce que ce sont même les juristes qui disent que, je ne sais pas s'il est là, il veut le dire, et on dit lorsque la forme est biaisée, c'est-à-dire le fond n'est pas bon. Est-ce que dans le procès de Costa Mutamba, est-ce que le fond était-il respecté? Parce qu'aujourd'hui, nous avons maintenant à la condamnation. Parce qu'il y a de ces dossiers que nous avons vus où l'argent a été décaissé, où quelqu'un a volé. La cour de cassation les fait acquitter que non, rien, il n'a pas volé. Tout cela a été acheté à ce même prix. Et alors qu'il n'y a même pas, de matériel, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de preuves que cela a été acheté, mais on a dit, laissez seulement comme ça. Alors la partie civile, parce que je voulais parler du cas de Kazadi. Parce qu'il y a dit les forages ont été, on a fait des forages, on a su de la padère, mais la partie civile qui est conscient qu'il n'y a pas de forage, n'avait-il pas le pouvoir de faire des recours par rapport à ce que le juge de la Cour de cassation avait arrêté comme décision qu'il n'a pas volé, n'a pas détourné? Parce que lorsque le fond n'est pas bon, comment sera la forme alors?
Bien, merci. Maître Jacques, vous avez la parole.
Oui, merci beaucoup. Il y a l'auditeur qui a précédé, celui qui vient de terminer, malheureusement je n'ai pas noté son nom, et il revenait toujours sur la thématique, sur le problème d'un procès, d'un droit à un procès équitable, lorsqu'il a parlé du droit de recours reconnu à chaque citoyen. Bon, excepté ceux qui jouissent des privilèges des juridictions, j'ai déjà donné ma position là-dessus, et évidemment, ça pose beaucoup de problèmes, parce que devant plusieurs juridictions répressives à travers le monde, il existe toujours une chambre de première instance, chambre de seconde instance, et dans les projets de réforme, il serait mieux que le législateur, que nos parlementaires d'ailleurs, nos députés nationaux qui sont là, qu'ils puissent réfléchir sur cette question, encore que ce sont eux-mêmes qui pourront pleurer, qui pourront être victimes de cette manière organisée par l'actuelle loi qui restreint, qui limite les droits de recours qui les exclut du voie de droit de former un recours.
Mmh.
Mais néanmoins, il faut tenir compte aussi du fait que la décision qui est rendue par la Cour de cassation, siégeant en premier et dernier ressort, il faut tenir compte aussi du nombre de juges. Donc, pour le législateur à un niveau, il s'est rassuré de la possibilité d'une bonne décision qui sera rendue par les juges qui vont composer même le siège. C'est pourquoi vous avez vu dans le procès Moutamba le nombre de juges qui est différent du nombre de juges qui ont siégé dans l'affaire comparativement aux juridictions inférieures, où les juges qui siègent, c'est juste au nombre de trois en matière répressive, en matière pénale.
Mmh.
Donc là, vous aviez une affaire de sept juges qui ont siégé dans cette affaire. Mais néanmoins, cela ne donne pas la garantie, parce que si les premiers ont commis une erreur, au moins, par la chance, on peut obtenir la réexamination de l'affaire et obtenir peut-être des corrections. Les sentiments peuvent emporter les premiers, mais ce n'est pas sûr que les seconds seront emportés par les sentiments. Et ça c'est très différent. Donc, pour ceux qui bénéficient des privilèges de juridiction, au niveau de la Cour de cassation, c'est bien différent. Comparativement à ceux qui bénéficient des privilèges de juridiction, je peux vous citer une autre affaire que nous avions déjà connue ici au pays, c'est dans le dossier de détournement. C'est le cas avec l'actuel président de l'Assemblée nationale, M. Vital Kamerhe, qui avait été condamné au premier degré par le tribunal de grande instance. Et je pense, j'ai bonne mémoire de Lugombe. Après, il a formé appel. Après appel, il y a eu cassation et puis renvoi devant la cour d'appel. Non, là, c'est différent. Mais malheureusement, ceux qui sont au niveau de la Cour de cassation, notamment les membres du gouvernement, conformément à l'article 153 de la Constitution, et c'est l'unique chemin qu'ils ont. Ils n'ont pas deux chemins, ils n'ont pas une autre voie qu'ils peuvent suivre. Donc, et ça appartient, ça sera une bonne chose si nos parlementaires réfléchissaient un peu sur la possibilité dans les réformes, sur la possibilité de pouvoir de revoir sur le voie des recours la possibilité de créer peut-être une chambre ou deux chambres, la chambre de première instance et la chambre d'appel au niveau de la Cour de cassation.
Donc, Maître Jacques Hang, tel que les choses se présentent aujourd'hui, M. Moutamba n'a pas autre... Il n'y a pas d'autre voie de recours, il n'aura qu'à purger sa peine, si jamais on arrivait à recourir à la prise à partie d'un juge.
Alors, j'ai dit que les journalistes, les médias et tout le monde ont dit qu'il n'y a pas de voie de recours, mais au moins, on n'a pas posé de questions. Il n'y a plus de voie de recours, mais on n'a pas posé de questions aux professionnels du droit que nous sommes.
Mmh.
C'est effectivement parce que tout le monde savait ou tout le monde sait. Généralement, les hommes de la presse, tout le monde sait que l'appel est l'unique voie de recours. C'est ça le plus grand problème. L'appel est l'unique voie de recours, mais ce n'est pas l'unique voie de recours. La loi en République démocratique du Congo a prévu autant de voies de recours, ceux qui sont ordinaires et ceux
qui sont extraordinaires,
comme j'ai eu à le souligner.
La prise à partie.
C'est à cette occasion d'ailleurs que j'ai pu citer la prise à partie, la cassation et tout. Et j'ai cité également la révision avec un auditeur qui est revenu sur la question de notre prophète Simon Kimbangu et tout.
Bien, on va accueillir d'autres auditeurs. Achille Katsongo, vous êtes à Lubumbashi, bonjour.
Oui, bonjour Jody, bonjour à l'invité.
On vous écoute.
Merci, Jody. Alors, je voudrais revenir un peu sur le concept des travaux forcés.
Oui.
Parce que nous avions suivi dans plusieurs débats, que ce soit sur votre radio, dans d'autres chaînes également. Bon, apparemment, et je venais aussi de suivre votre invité, je suis un peu confus. Est-ce que l'invité peut un peu nous dire en des termes un peu plus clairs, tout en illustrant des exemples, parce que votre émission, c'est une émission quand même pédagogique, ou alors, les dire en langue, soit en swahili ou en lingala, pour qu'on comprenne un peu ce que ça, cela veut dire.
Travaux forcés. Merci. Maître Angui, quand on parle des travaux forcés, Achille veut bien comprendre de quoi s'agit-il.
Allô?
Oui, allô maître, vous avez la parole. Qu'est-ce qu'on entend par travaux forcés?
Est-ce que vous m'entendez, monsieur Jody?
Oui, on vous entend très bien.
D'abord, travaux forcés, il faut, si on peut retenir d'abord qu'il s'agit d'une peine prévue par le code pénal. Le code pénal de la République démocratique du Congo. La peine des travaux forcés ou les travaux forcés sont exécutés dans les tâches ou dans l'intérêt général. Ce sont des travaux d'intérêt général. Il peut s'agir soit des travaux dans l'administration, mais à l'absence d'une rémunération, celui qui exécute ces travaux n'a pas droit à une rémunération. Ce n'est pas la compréhension que fait sur les travaux forcés certaines personnes qui prétendraient qu'il s'agit de travaux
champêtres, aller faire des champs,
charger des camions ou travaux forcés, ça peut rentrer même dans l'administration.
Oui. D'autres pensées même à aller faire cultiver le maïs. Le maïs à Kanyamakassi. Oui, oui, on vous entend très bien. Allô, maître.
Est-ce que vous m'écoutez, monsieur Jody?
Oui, oui, on vous entend, on vous écoute, on vous 4, 5 sur 5. Allez-y.
Ouais, c'est différent. Donc, il ne faut pas entendre ça par des travaux très lourds. Ce sont des travaux obligatoires que chaque individu exécute parce qu'il a été condamné. Parce qu'il a été condamné par une décision judiciaire.
Bien, merci beaucoup Maître Jacques Angui Vuira. Je rappelle que vous êtes avocat au barreau du Nord Kivu. Avec vous, on a échangé aujourd'hui sur les voies des recours contre les décisions pénales. Vous avez parlé des voies des recours ordinaires et des voies des recours extraordinaires. Dans les voies des recours ordinaires, nous avons l'opposition, nous avons l'appel. Et pour le cas du procès de l'affaire Mutamba, il y a plus la décision est définitive, il y a plus de voie de recours, mais vous dites qu'il y a quand même une voie de sortie, c'est la prise à partie du juge en cas de dol, de concussion et déni de justice. Cela un peu amené à la cour à revoir la décision. Merci beaucoup Maître Jacques, excellente journée et à la prochaine. Bien. Bien, tout à l'heure dans la deuxième partie de l'émission, nous allons parler de la dégradation de la qualité des services des sociétés des téléphonies cellulaires. C'est comme aujourd'hui là, on a beaucoup de soucis par rapport à la liaison téléphonique. On en parle dans la deuxième partie de l'émission au Capi Service.